cadre. Alors, Peter Bogaerts, professeur à l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, et ancien de Shell, et Hans Ketelsleger, de l'université de Maastricht et ancien d'ExxonMobil, donc tous deux liés à l'industrie pétrolière. L'étude conclut qu'il n'y a pas de risque accru dû au benzène à des niveaux d'exposition réduits. Et en 2012 déjà, Concave avait financé une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute et dirigée par Robert Schnatter, un cadre d'ExxonMobil, également co-auteur de l'étude de 2017, concluant comme par hasard que la VLEP en vigueur en Europe était largement suffisante pour protéger la santé des travailleurs de leucémie liée au benzène. Et donc le lobbying se poursuit dans les couloirs même de la Commission européenne. En mars 2019, les membres de Concave rencontrent des représentants de la Direction générale de l'emploi, chargés de rédiger les projets de directives sur la protection des travailleurs. Ils mentionnent des études soumises à l'ECHA évoquant un risque résiduel négligeable en dessous de 0,25 parties par million, donc 10 fois plus, 5 fois plus que le 0,05 proposé par l'ECHA. Ils affirment soutenir une VLEP de 0,5 parties par million et donc 10 fois plus que la proposition des scientifiques non liée au pétrole. Et donc 3 ans plus tard, que s'est-il passé? L'UE s'est alignée sur les seuils défendus par Concave, c'est-à-dire 0,5 parties par million à partir d'avril 2024. Puis, et c'est une fleur, hein, on le sent, 0,2 parties par million à partir de 2026, soit effectivement, donc, comme j'ai dit, 10 fois et 4 fois plus que la limite préconisée par l'ECHA. L'industrie pétrolière a payé les consultants pour qu'ils produisent des évaluations des risques qui montraient que le benzène provoquait des leucémies, mais à des niveaux élevés d'exposition. Et les organismes de réglementation n'ont donc pas voulu abaisser les limites d'exposition, comme mente dans l'étude TEE l'épidémiologiste Peter Infant, spécialiste du benzène. Alors, ouvrez les guillemets, toute allusion quant à des études financées afin de freiner la réglementation européenne est totalement fantaisiste et inacceptable, réagit Concave. Notre travail consiste à fournir des évaluations, des conclusions, des recommandations basées sur des données scientifiques solides. Et l'ECHA confirme que Concave a contribué à la procédure et que des représentants de l'industrie ont également participé à la session plénière de son comité d'évaluation des risques. L'agence rappelle qu'elle fournit une recommandation scientifique, autrement dit, vous avez pris votre décision, on n'y est pour rien, quoi. Mais que la décision revient à la DG Emploi de la Commission européenne. Donc, ils rejettent maintenant la responsabilité sur la Commission. Nous, on vous a fourni des avis, maintenant, débrouillez-vous, voilà. Vous les avez adoptés, tant mieux.
En plus, c'est ce qui est scandaleux. Bon, je sais, c'est le principe des lobbies. C'est le principe des lobbies, mais c'est quand même assez scandaleux qu'on paye des scientifiques pour qu'ils produisent des rapports qui finalement ne sont pas la vérité du tout. Et on se retrouve effectivement avec des problèmes pour les employés de l'industrie pétrolière assez conséquents. C'est un peu scandaleux quand même. Mais bon,
il y a eu la même politique. C'est vrai que c'est la même politique qui a été liée pour le tabac. C'est
oui, un truc exactement.
Exactement calqué sur le même même idée.
Voilà.
Voilà. The Postman Radio Show. C'est l'heure de la pause musicale.
Allons-y.
Musicale. Ouais.
Il parlait un peu vite ton japonais tout à l'heure dans le musique là.
T'as pas tout compris ?
Non, je me suis perdu. J'y perds mon latin.
on doit l'excuser, il est irradié.
Ah. J'espère que non.
en Radio Libertaire 89.4 de Poste Non Radio Show. Donc Tetsuo Kogawa, Radio Art, paru en 2019 aux éditions UV et pas vu. Théoricien, activiste, artiste, Tetsuo Kogawa est une figure incontournable. C'est la quatrième de couverture que je suis en train de lire. Une figure incontournable des arts sonores et radiophoniques. Il contribue depuis le début des années 1980 à une réflexion radicale sur la communication et les médias. Beaucoup ont profité des fruits de ses recherches et parfois sans le savoir. Ses créations électroniques et ses textes ont tant été partagés, repris ou commentés qu'ils ont contribué à alimenter la culture commune de la génération actuelle, des expérimentateurs sonores et des hackers, des penseurs de la radio et des médias et des mondes numériques. Avec Akiba, son dernier livre, il revient sur son itinéraire d'enfant passionné d'électronique dans le Tokyo de l'après-guerre, témoignage de son expérience au sein du mouvement des radios libres japonaises, et il y en a peu. Comme je le disais tout à l'heure à table, en ce moment, par exemple à Tokyo, il ne doit pas y avoir plus de 7-8 radios sur la bande FM Tokyo Hit. C'est une la FM extrêmement réglementée par l'État, tout comme en Angleterre en fait. Ici en France, on a énormément de chance. Donc, il raconte l'invention d'un nouvel art des ondes électromagnétiques, le radio art. Ce récit autobiographique forme le cœur de l'édition anthologique Tetsuo Kogawa Radio Art, coordonnée et présentée par Pali Meursault. Et celle-ci rassemble également les manifestes les plus importants écrits par Tetsuo Kogawa. Il y a également un entretien inédit avec Félix Guattari qui date des années 80 et des contributions originales de John Duncan et Elisabeth Zimmerman. Je passe à la page 5, donc j'ai noté qui est le sommaire. Donc on retrouve un entretien, Félix Guattari, Tetsuo Kogawa, un texte de John Duncan, deux ou trois choses à propos de Tetsuo Kogawa, Elisabeth Zimmerman, jouer avec Inaudible. Et juste un peu pour... Il y aura d'autres extraits que je vais lire de ce livre passionnant ou de ce passionnant livre. C'est Étienne Noiseau qui avait une petite fanzine autour de la radio qui n'existe plus malheureusement et que j'ai rencontré. C'était avant le Covid. Étienne Noiseau écrit comme ça. On peut un peu plus se visualiser ce que fait Kogawa. A écrit de manière concise une performance de Kogawa. On peut le voir inviter les spectateurs pour se rapprocher. Puis il se saisit d'un fer à souder afin de fabriquer sous leurs yeux un mini émetteur FM sur une petite plaque de cuivre à partir des composantes électroniques les plus courants. Ah, cette création tout à fait fonctionnelle, alliée à quelques autres émetteurs déjà préparés ainsi qu'à des transistors réglés sur les mêmes fréquences, il se met à jouer physiquement avec les interférences et les battements d'ondes, formant ainsi une sculpture bruitiste de matière radiophonique brute, créée par la position de ses mains à proximité des antennes. Alors, ce titre d'un groupe qui s'appelle The Pillows, ou qui s'appelait The Pillows, puisque toute cette, une partie des disques que je diffuse sont des imports, des mini-CD 3 pouces en import qu'un ami m'a offert il y a déjà 15 ans et que j'ai ressorti d'une des boîtes, d'une des multiples boîtes magiques que j'ai chez moi, pleine de disques. Donc The Pillows, les oreillers, avec ce titre, alors phonétiquement en japonais, c'est Resa Amutsuta no Yutsu. Et
bravo Henrik.
Resa Amutsuta no Yutsu.
Ouais.
Et passé sous le filtre de Google Traduction, ça donne la dépression du petit hamster. Textuellement, j'ai pris les idéogrammes du CD figurant sur la pochette et je les ai passés par la moulinette Google Traduct. La dépression du petit hamster. Mm. Je pense que je suis le petit hamster et que je suis en pleine dépression. Mais ça, c'est pas nouveau de toute façon. J'ai toujours été en dépression et voilà. Alors, j'ai envie, j'ai plusieurs avant de vous redonner la parole et que je fasse une petite pause. Quoique, j'ai pas la bonne musique là. J'en ai une autre. Alors attendez.
Je peux pas dire un mot ?
Je
voudrais remercier l'auteur de l'article dont on s'est servi copieusement sur la pollution de l'air, que j'ai oublié de citer, qui s'appelle Stéphane Mandard, et que je remercie beaucoup pour son article qui est très bien.
Oui.
La pollution de l'air, oui. Oui, on sait que tout est pourri. Hein. Il y a même des gens pourris.
Bon, est-ce que tu as réussi à trouver ton disque?
Ouais, mais j'ai peut-être passé Alors attendez, oui, il y a même des gens pourris, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis un peu
obsédé.
Alors, la musique qu'on entend en ce moment, c'est également un japonais, c'est Radik Aka Yoshihiro Anno.
Ah oui, tu vois, ils ont de l'avance sur nous, hein. Ouais.
Bah, je crois que je préférerais m'exiler au Japon. Je pense que c'est ma prochaine destination, je ne reviendrai pas.
Bah, t'es déjà bilingue avec tout ce que tu cites là en ce moment, c'est très bien.
Ah oui.
Ah oui, déjà là.
Risa Musuta Nyoyutsu.
Oui, ah voilà, tu vois. Ouais.
La dépression du petit hamster.
Tu peux pas encore prendre le métro, mais tu commences, oui, ouais, c'est.
Voilà, au moins je pourrais dire ça. Je suis un petit hamster.
Ah oui.
Nyoyutsu.
Oui, attention, les autres, c'est le panda, hein, donc.
Non, c'est la Chine.
Oui, bon, mais là, attention, hein, pour... C'est pour ça qu'il reste avec le hamster, hein, c'est pas mal.
Je ne sais plus quel disque j'ai mis là. Oh là là.
Ah si, tu vas voir. Oui.
Bon alors. Ah, voilà. Alors, je me lance.
Oui, c'est pas mal.
Alors, attendez.
C'est pas, bon, ça, oui. C'est pas ça qui est en chose.
J'ai plusieurs extraits où c'est beaucoup plus sérieux, où il parle de son art. Quoi. Étienne Lenoiseau nous expliquait ce qu'il fait.
Voilà.
Ouais. C'est-à-dire que la bande FM n'étant pas du tout libérée au Japon, Tetsuo Kogawa, sa passion, c'est les circuits électriques imprimés. Il en fait des petits émetteurs qui branchent à des amplificateurs, à des platines, à des micros.
Oui,
ils font ça dans des appartements. Ils faisaient ça dans des appartements et comme je disais.
Comme
tout à l'heure,
la population est dense.
Comme à Tokyo, la population dans un rayon de 801 km est extrêmement dense. Ils étaient sûrs
qu'ils
de toucher un maximum de gens. Il y avait au moins déjà 10 000 personnes autour d'eux.
Ah bah oui,
et puis ils invitaient des gens, des voisins, ils parlaient de politique, ils parlaient de social, ils parlaient de musique, ils rigolaient, ils passaient des disques, et ils bougeaient sans arrêt la ville. C'était ça, le Radio Art, l'art radio pour Tetsuo Kogawa, en fait. Donc, j'ai envie de lire ce passage. Donc, Tetsuo Kogawa raconte un peu sa vie, par rapport à sa passion, c'est-à-dire l'électronique, les circuits imprimés, ses bidouillages, son bricolage, tout ça. Et il raconte aussi le Tokyo qui... le Tokyo qu'il voit changer au fur et à mesure des années. À la fin des années 1980, s'ouvrit à Akiba, qui est un quartier, un lieu baptisé Eros Tower. Je le visitais pour le compte d'un magazine avec lequel je collaborais à l'époque. La totalité des 8 étages de l'immeuble constituait un immense sex shop, divisé en sections dédiées à des fétichismes particuliers dont les subtilités de catégorisation m'échappaient un peu.
Allons.
Chaque étage comportait un étalage de vidéos,
il est débordé,
logiciels et magazines. Le 8e étage était consacré, ouvrez les guillemets, aux ravissantes écolières. Et l'on y trouvait par exemple des cartes téléphoniques avec des photos de jeunes filles. Le magasin ne proposait pas beaucoup de poupées, mais l'une des caissières était déguisée en poupée.
Quand il dit poupée,
grandeur nature. Hein.
Il devait y avoir la queue.
La section Buru Serra, ça s'appelle comme ça,
oui.
Dédiée à la vente de vêtements usagés de jeunes filles, se trouvait derrière une porte marquée d'un prénom féminin des plus communs. Oui. D'ailleurs, je conseillerais à cette personne-là qui ouvre trop la bouche, dont on voit la culotte, si elle veut se faire de l'argent, de commercialiser ses vieilles culottes. N'ayant jamais mis les pieds dans un endroit de ce genre, J'imaginais que derrière la porte se trouvait une sorte de salon dans lequel un groupe de filles vendait ses sous-vêtements directement aux clients. Je ne connaissais pas cette pratique que par le film de Masato Harada, Bounce Co-Girls, daté de 1997, dans lequel une jeune fille vend ses culottes dans un magasin de Shibuya pour financer ses études. Il me sembla cependant que, contrairement au film, la section Borussera du magasin d'Akiba proposait des imitations plutôt que des articles authentiques. Cela pouvait bien être une tendance généralisée, davantage compatible avec l'industrialisation du fantasme. À Akiba, les sex shops, comme les magasins d'informatique, tendent à se construire en profondeur, car le quartier est dense et l'espace limité. Heroes Tower avait des escaliers resserrés qui me rappelaient ceux de l'immeuble du magasin d'informatique Tout Top. Le dernier étage était bas de plafond, ce qui contribuait à l'atmosphère équivoque. J'entrais dans la section Borussera, où se trouvait une large sélection d'uniformes d'écolières, y compris les marinières de quelques écoles prestigieuses et des uniformes de chaînes de restaurants bien connues. Dans un coin près de l'entrée était reconstituée une chambre typique de Kogal. Une Kogal, c'est un terme apparu au début des années 90 pour qualifier la culture sexualisée des écolières japonaises. Un portrait de jeune fille posé sur la table de nuit suggérait que la chambre était la sienne. Mais peu importait. En fait, que les CD ou le nécessaire de bureau lui aient vraiment appartenu. Ce qui était proposé aux clients était une immersion dans la vie Kogal, libérant l'imagination et les fantasmes. Au contraire des boutiques Borussera conventionnelles qui prennent tant de peine à démontrer l'authenticité des articles, celle-ci semblait se contenter du désir que les clients avaient d'y croire. D'une manière générale, la preuve d'authenticité est un élément important de la valorisation de n'importe quel produit. Mais le comptoir des petites culottes de Heroes Tower semblait curieusement n'y apporter aucune importance. Tout de même, les culottes emballées sous film plastique portaient des traces visibles d'urine et d'autres fluides corporels, parfois de quelques poils. Les modes d'emploi qui accompagnaient les articles étaient, quant à eux, particulièrement détaillés. Placés au freezer, laissés dégeler lentement sous une lampe fluorescente et inspirer le doux parfum. Ce genre d'idée était typique de l'époque. Je ne saurais pas retracer l'histoire de la parfumerie et de l'aromathérapie, mais à la fin des années 1990, le fait de vendre des vieilles culottes en tant que produit de parfumerie m'avait semblé une stratégie commerciale assez novatrice.
と信じてた。あの夏の日、あなたと会う。
Radio Libertaire, 89.4, Radio Libertaire, The Post Non Radio Show. Et on écoute. J'allais dire on écoute des petites culottes. Mon amour Tokyo par le groupe Pizzicato 5, un disque de 1997 paru sur le label new-yorkais ou américain Matador.
Qui sonnait un peu années 60, je trouve.
Oui, très sympa, j'adore, cet album est fabuleux. Alors, ces petites culottes.
On est loin des geishas, hein, dis donc. Des geishas, c'est quand même une culture avec un habit, la manière de s'habiller.
Les geishas coexistent avec les écolières prostituées. Qui se prostituent, pardon.
Oui. Tout ça, pour l'argent.
C'est un mouvement. Là, on dit, là, il y a plein de faits divers en France. Il y a plein d'adolescentes qui se prostituent ou qu'on prostitue.
Mais attention, bien sûr.
Au Japon, ce phénomène date quand même d'il y a 20 ans au moins déjà. Qui n'a pas lu des articles sur ce fameux délire des écolières qui se prostituaient pour acheter des choses de luxe, des objets de luxe.
Pour gagner de l'argent, acheter des.
Donc, dans ce fameux sex shop, ex-boutique de 8 étages d'électronique transformée en sex shop géant. Il y a une section écolière et petite culotte avec les chambres, machin. Alors, quand t'as demandé qui sont les types qui y vont, ça s'appelle de la pédophilie, mais bon, bref. Moi, j'avais un amant dans le passé qui reniflait mes caleçons.
Sauf que,
comme je suis quelqu'un d'assez propre...
Tu les as pas vendus ?
Une journée... Non. Ça me serait pas venu à l'idée.
T'avais pas besoin de cours de maths.
Pardon ?
T'avais pas besoin de cours de maths.
J'ai toujours été nul en maths.
Bah oui, parce que t'as vu, c'est pour suivre des cours, hein, c'est pour...
Non, pas du tout.
Ah bah oui, c'était... on s'en doute, comme tu l'as dit, c'est pour des produits du luxe, mais...
C'était pour s'acheter...
Est-ce que c'est pour pouvoir pour aller à l'université
C'était pour... Non.
Bah oui, voilà.
Elles avaient les fameux costumes d'écolières ou de lycéennes, ou de... Non, c'était des écoles, je sais pas quoi, et... C'était surtout pour se payer une vie de luxe, aller dans des endroits...
Mais elles ne sont pas autonomes. Hein.
Et elles se payaient leur autonomie. Oui. S'acheter des sacs Vuitton, des fringues Dior... Enfin bref, donc... Cet amant dans le passé... Alors, moi qui suis extrêmement propre, je prenais des douches, les caleçons étaient propres, et je ne sais pas ce qu'ils pouvaient renifler. À part l'odeur de la lessive... Sur le caleçon, mais bon, il aimait renifler, il me retirait...
Ça c'est comme ça.
Je retirais le caleçon, et il le reniflait. Donc, à part l'odeur de la lessive, il n'y avait pas... Enfin bref, je suis une écolière japonaise. Non, je plaisante. Je ne me suis jamais prostitué pour des produits du sein.
Pour des bonbons, peut-être ?
Oh, j'en ai plein mon sac.
Disons que ça mène pas à la guerre, ça, voilà.
J'en ai plein mon sac. Extraordinaire pays.
Ah oui, là, c'est...
Ah oui. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça dans le bouquin de Kogawa. Hein. Tout le reste, lui, il parle du changement du quartier, où il allait, des endroits, etc. C'est vraiment... Ce passage est vraiment... un des seuls passages, mais... Enfin, il parle d'autres endroits qu'il voit se transformer. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient absolument passionnés par l'électronique, par les bidouillages.
Ah oui.
Par... Ils bidouillaient des ordinateurs, des circuits imprimés, ils passaient leur temps à ça. Et donc, il y avait des immeubles entiers de pièces, de trucs, de machins qu'ils allaient acheter, qui... Voilà. Mais il n'y a pas que ça dans son livre, hein. Je rassure. Tout le monde, c'est vraiment un épiphénomène dans son bouquin, mais il est tellement... voilà, c'était un peu pour pimenter la soirée avec des petites culottes.
Tu sais dans quelle ville que c'est, ça? C'est au Tokyo, non?
C'est Tokyo.
Ah, c'est Tokyo, ça se densifie. Ça veut dire que ça se densifie énormément.
C'est Tokyo. C'est pour ça qu'il, qu'il avait beaucoup d'auditeurs quand il faisait sa mini-radio.
Voilà. Ah oui, ah, oui, tout
à fait. Oui, il dit justement, dans un rayon de 800 mètres, 1 km, il y avait...
10 000 habitants.
Il y avait déjà une telle population...
Dis donc.
Qu'au moins, on pouvait toucher au moins 3-4 personnes.
Oh là, ah oui, oui.
Et tu leur disais de venir, les gens venaient, ils leur disaient, oh oui, on est là, à tel endroit, ils venaient, ils discutaient. Et ça a duré un moment. Mm-hmm. Ça a duré... Alors maintenant, je ne sais... Alors, il a un site internet, Tetsuo Kugawa, je ne l'ai pas rajouté ce soir dans l'émission, parce que ça aurait fait beaucoup. Il aurait fallu que je jongle avec Internet en plus pour diffuser un tas de choses, mais il a un site, je ne sais plus s'il existe encore, qui était extrêmement, extrêmement riche, extrêmement... Il y a des conversations avec des gens par téléphone, enfin, avec d'autres artistes, d'autres bidouilleurs, etc. Voilà. Donc personne pour réagir sur les culottes, il n'y a que moi.
Oh, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est...
Oh, je vous tends la perche.
Faudrait voir, quoi.
Moi, j'ai un truc sur la confiture.
Non, mais il y en a certaines. Par contre, je dois dire, je voudrais rajouter une méchanceté toujours adressée à la même personne que j'ai prise en grippe. Surtout, toi, ne vends pas tes culottes. Hein. Parce que j'aimerais pas les renifler, quoi.
Bon...
Oui,
c'est quoi comme fruit, tes confitures, là?
Alors, le titre précis, c'est pas...
Figue. La
confiture,
c'est la figue.
C'est, et ça doit être une faute, c'est des confitures. C'est la déconfiture. La déconfiture de casino. C'est un article sérieux, hein?
Ah oui, oui.
La déconfiture de casino annonce une vague de consolidation. Moi, je suis néophyte, hein, une consolidation, casino est en danger. On va tous, nous les puissants, lui apporter notre écho pour essayer de sauver la situation.
Nous les puissants.
Pas du tout.
De qui tu parles? Ah oui.
La mise en vente des 400 hyper et supermarchés sous enseigne casino intéresse Intermarché, Lidl, Carrefour ou encore Système U. Alors ça m'a amusé parce que c'est le début de l'article qui m'a amusé, à vrai dire. Ça m'amuse pas du tout. Parce qu'il va y avoir de la casse, à mon avis, pour les employés. Mais bon.
Mais une énorme casse, ouais.
Il y avait un branle-bas de combat dans la grande distribution. C'était un
article... Attends, ça a fait l'objet d'une émission d'Élise Lucet, ça, il y a quelque temps.
Carrefour.
Ah, c'était Carrefour, c'était pas Casino.
Oui.
Ah, ok, ouais.
C'est un article d'Isabelle Chaperon et de Cécile Prudhomme. Je le dis tout de suite, puisque je vais exploiter leur article. Elle commence par dire que Rothschild et compagnie... Eco, donc, la banque d'affaires du groupe Casino a demandé aux candidats intéressés par le rachat des hypermarchés et autres supermarchés sous enseigne Casino de déposer des offres incitatives, si possible dès le mercredi 29 novembre. Et cet appel d'offres vise à céder 400 magasins, à comparer à un total de 9100 points de vente pour un groupe qui gère aussi bien les bannières, Monoprix, Franprix ou Spar. L'ensemble à céder pesant la moitié des 6% de parts de marché en France captées par l'Empire bâti par M. Jean-Charles Naouri, selon les données de Kantar. Alors là, j'étais hyper content de voir que Monoprix était propriété de Rothschild et que c'était avant Casino, ça je savais. Il y a eu Casino à côté de chez moi.
Pas d'antisémitisme à l'antenne.
J'ai pas parlé de ça. Hein.
Non, je plaisante, mais, j'ai une joke.
Mais moi, je suis hyper content parce qu'avant, il y avait un casino sans changer de lieu ni de design. Disons, c'est devenu un Monoprix. Et depuis 1999, où j'habite dans le coin, je fais mes courses là. Et je suis hyper content parce que qui a été payé par Rothschild pendant que moi, je donnais de l'argent à Rothschild, ben, c'est notre leader formidable. Actuellement chef de l'État. D'accord. Et donc avoir contribué à la formation de sa fortune me plaît beaucoup. Et donc je peux quand même déconner un peu.
Oui, t'as le droit. Oui,
parce qu'il y a des gens qui ne vont pas rigoler ensuite. Hein.
Alors, oui.
Je ne vais pas dire grand-chose, sinon que ben, le groupe Naouri, effectivement, eh bien, il est hyper endetté. Et le groupe Casino va brûler 2 milliards d'euros de cash en 2023. Monsieur Kretinsky et ses associés ont promis d'injecter 1 milliard d'euros. S'ils laissent la situation comme ça, on leur donne 6 mois d'espérance de vie, souligne un financier. Alors, qui est intéressé? Eh bien, un peu tous les grands groupes, quoi.
Tous les vampires autour.
C'est-à-dire, il y a Intermarché, qui fait partie des gros appétits. Il y a les mousquetaires, alliés de casino au sein d'une centrale d'achat, qui ont déjà acquis 61 magasins. Il y a un autre glouton, dit l'article, qui s'appelle Lidl, un Allemand. C'est le sixième du marché français, le discounter. Il voit sa part de marché stagner à 7,8% et il manifeste son intérêt pour une partie du parc de casino auprès de M. Naouri. En sabrant un peu l'article pour ne pas être trop long, il y a des sélectifs comme Auchan qui souhaitent picorer ici et là des points de vente susceptibles de compléter leur parc. Il y a Aldi qui avait déjà repris le leader price à Casino qui devrait se situer dans cette catégorie. Il y a Système U qui indique rester dans une logique de reprise de magasins sur des opportunités. Il y a Carrefour qui finalise leur achat de 60 hypermarchés et 115 supermarchés Cora et Match qui devrait aussi traquer les bonnes occasions. Alors les syndicats de Casino, eux... Ah bah merde. Voilà des troubles faits. Ça se passait bien pourtant jusqu'à là. C'était un gâteau, quoi. Il faut payer pour en avoir, mais d'accord, mais c'est quand même un gâteau. Les syndicats de casino, eux, s'inquiètent des conséquences sociales de cette atrophie. Ils sont anxieux, hein, les...
Ah oui, ça représente combien de monde derrière, alors les...
Alors, Monoprix, ouais. Franprix et les Super Espar peuvent-elles supporter seules une logistique et un siège social surdimensionné? Moins vous avez de surface de vente, moins vous avez de flux possibles pour ces entrepôts qui ont déjà des difficultés pour avoir une activité acceptable. Ah, là, ils sont dans des remarques concrètes, finalement. Quoi.
Oui, oui.
On n'a pas parlé de ça jusqu'à maintenant, il était question que d'argent. Mais eux, ils voient comment ça fonctionne. Et ils disent, sur 1500 à 2000 salariés au siège stéphanois, ça va avoir l'effet d'une bombe, prévient Nathalie Devienne, déléguée FO, et Jean Pastor, délégué syndical CGT et porte-parole de l'intersyndicale, réunis le 28 novembre. À Paris, vous avez 2 sièges, c'est pareil, ajoute-t-il. La dizaine d'entrepôts en propre, là aussi, c'est pareil. C'est la disparition annoncée de tout ce qui est annexe, de tout ce qui gravite autour des magasins, comme un jeu de domino. Il y a monsieur Daniel Skatinski qui est dans le coup du côté repreneur, donc, et voilà, bah, attendons la suite. Ça avait commencé il y a un petit moment déjà, je crois que j'en avais parlé, mais voilà, ça prend du temps.
Oui, apparemment, ça va quand même bien se reprendre. Hein. Il y a du monde autour.
Ah, bah, de toute façon, ils sont en faillite. Ouais. Enfin, ouais. Pas encore, mais disons.
Bah, le casino.
L'industrie des petites culottes.
Le casino.
Ah,
ça, non, ça marche.
Le magasin casino.
Moi, j'avais été surpris du passage de casino à Monoprix. J'imaginais pas que ça pouvait être le même groupe, mais en fait, c'était juste un changement d'enseigne. Avec certains changements de personnel, quand même. Sinon, j'ai un truc sur les méga bassines qui font un méga plouf, mais je sais pas si j'ai le temps. J'ai un truc sur l'open data. Alors, les méga bassines qui font un méga plouf.
Non, mais moi, j'aimerais qu'on parle des petites.
Parce qu'apparemment, il.
Non, mais
il a misé pas mal d'argent là-dessus, donc.
Est-ce que je peux trouver un truc sur les petites.
Non, mais personne n'a envie de rebondir.
Il faudrait que la température réchauffe, quoi.
Oui, donc les méga bassines, plouf plouf.
Bah, vous vous rappelez que le soulèvement de la terre avait été.
Les soulèvements de la terre.
Mmh. Oui, ça c'est pas cool ça.
Darmanin, parce que
Darmanin qui dissout à tour de bras. Hein.
Parce qu'il y avait des écoutes.
dissolvons.
Oh, oui, ça, c'est...
Il y avait donc des images qui tournaient en boucle sur les écrans. Il y avait des éco-terroristes et les
des éco-terroristes.
C'est comme ça qu'il les avait qualifiés. Il invente des mots. Le jour de la manif, comme l'avait raconté le Canard le 29-3, Darmanin. Alors ça, c'est rigolo ce que je vais vous lire, parce que moi, je savais déjà qu'il y avait un des chefs gendarmes qui avait adressé des ordres à ses troupes, et voyant ce qui se passait, il avait dit « mais ils n'ont pas compris ce que je disais, ils s'attaquent à ceux où il ne faut pas, et donc ils laissent les autres ». Enfin bon, il y avait un petit peu Fatakès. Et là, j'ai un autre écho. Darmanin, prenant exemple sur le préfet de police anti-gilet jaune Didier Lallement, s'était installé dans un fauteuil de la salle de crise de Beauvau, et de là, c'est lui qui avait piloté la manœuvre et dirigé à distance les 3200 gendarmes déployés sur les lieux. J'ai oublié de dire excusez du peu pour respecter le style du canard, lesquels ont balancé en 2 heures quelques 4000 grenades. C'est moins que les Russes, hein, mais disons, bon. Et ça n'avait pas traîné. Dès les premiers instants de la manif, 2 fourgons et autant de voitures de gendarmerie étaient incendiées. Ah. Il faut dire qu'ils avaient été bizarrement positionnés. Au point de stupéfier plusieurs spécialistes du maintien de l'ordre. J'ai jamais vu ça, ouvrez les guillemets. J'ai jamais vu ça, avait confié l'un d'eux au canard. On n'expose jamais les véhicules de flanc à la queue-leu-leu à des activistes violents. Mais, fermez les guillemets, mais pour les images, c'était parfait. Et Macron avait résumé l'affaire ainsi. C'était, j'ouvre les guillemets, des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Oui, une simplicité enfantine, les bons et les méchants, il fallait interdire les méchants. Il manquait juste un détail, prouver qu'ils l'étaient. Le 9 novembre, la claque. Je lis toujours cet article du Canard écrit par M. Jean-Luc Porquet. Et le Conseil d'État annule purement et simplement le décret de dissolution signé Darmanin. La plus haute juridiction administrative française rappelle, ouvrez les guillemets, qu'une mesure de dissolution porte une atteinte grave à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et même si, ouvrez les guillemets, les soulèvements de la terre se sont bien livrés à des provocations et à des agissements violents à l'encontre des biens, elle estime qu'aucune provocation à la violence contre des personnes ne peut leur être imputée. Qu'en conclure ? Qu'un ministre ne peut pas, ouf, faire n'importe quoi. Que la désobéissance civile a encore droit de citer dans ce pays, et que même si des débordements ont lieu, même si des black blocs ont profité de cette manif pour casser du CRS, ça ne peut servir de prétexte à criminaliser tout un mouvement mené par des écolos, mais aussi par des paysans et des chercheurs. Petit rappel, pas moins de 16 mégabassines sont prévues dans les Deux-Sèvres, financées à 70% par de l'argent public, et dont les partisans s'abritent derrière un rapport du Bureau de recherche géologique et minière, dont il est établi qu'ils n'ont pas pris en compte l'irruption du réchauffement climatique. Autre rappel, en février, ce même Conseil d'État a confirmé l'interdiction de remplir 5 mégabassines construites illégalement en Charente-Maritime, reporter du 10 novembre, elles sont toujours ni vidées ni démontées, et ça date du 15 novembre 2023. Canard enchaîné. Monsieur Jean-Luc Porquet, merci pour votre article.
Ah, qu'est-ce que tu l'aimes, ton canard.
J'adore. Ça s'appelle Plouf en plus, l'article.
Méga Plouf.
Plouf.
Méga Plouf Plouf. Allez,
parce qu'on en a entendu sur les télévisions quand même, on a l'impression vraiment. D'un déferlement de trucs insultants, finalement, quoi. On a l'impression que c'est pas une impression, c'est les mots du ministre, éco-terroriste. Des gens vont manifester, ils se font traiter de terroristes. Non, mais attends.
Je suis d'accord avec toi. Là, c'est vraiment, on est dans...
Et en plus, ils respectent pas un certain nombre de trucs sur...
Dans une inflation langagière.
Sur les véhicules... bon, j'ai encore un truc rigolo grâce à monsieur Emmanuel Macron que je remercie d'avoir été ministre de l'économie, parce que je vais vous raconter un truc marrant encore.
Oh, est-ce si drôle?
Ben non.
Est-ce si drôle?
Non, mais oui, quand même.
Non, mais oui.
Ça, je peux ou je peux pas?
Ben, viens, bien sûr. Après, on serait une longue pause. Avec un groupe japonais.
Alors,
pas que des années 90, des années 2010, le Fat Fox Fan Club, le fan club du gros renard, avec un titre de 10 minutes qui s'appelle Fat Fox, et ça sera le Hibiki Mameshiba Remix. Mais vas-y, tu as encore quelques minutes.
Ben, c'est un titre d'article toujours dans le Canard du 22 novembre 2023. Le titre, c'est « Open Data, attention à l'excès de transparence ». Ah bon, alors sous-titre, « Les adresses de nombreuses personnalités se retrouvent sur la toile depuis l'ouverture des registres des sociétés au public ». Ah bon, titre bizarre. Et alors voilà ce qui s'est passé. En 2015, Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie. Il fait voter une loi. Disons, à cette époque-là, avant la loi, il y avait un truc qui s'appelait Infogreffe, qui avait un monopole sur les registres des sociétés, sur l'ouverture des registres de sociétés au grand public. Pour avoir accès à un renseignement, il fallait payer un petit quelque chose, et c'est eux qui avaient le monopole. C'est un groupement de greffiers des tribunaux de commerce en France. Donc. Et les infos clés sur ces entreprises, grâce à une loi d'Emmanuel Macron, sont passées en open data.
Ça veut dire que tout le monde pouvait les consulter. Et en plus de ça, on pouvait avoir, comme beaucoup de personnes dans les sociétés civiles, les immobilières, les SCI, étaient domiciliées au domicile même, justement, de l'entrepreneur qui avait sa SCI, par exemple. Eh bien, on peut avoir très facilement l'adresse de chaque patron, chaque entrepreneur. Voilà. C'est
et en plus, 8 ans plus tard, dont dit l'article, il y a, on peut payer, s'abonner ou s'inscrire sur société.com, Verif ou Managero, mais le site Papers, P-A-P-E-R-S, lui, donne tout en un clic. Il suffit de taper dans la barre de recherche le nom d'un dirigeant ou de n'importe qui et on trouve le renseignement.
Voilà.
Et donc, le service est gratuit, sauf pour les entreprises, banques, assurances, EDF, qui achètent un accès sur mesure aux bases de données. Mais un individu seul, donc, peut se permettre d'avoir l'adresse
de n'importe quel...
C'est un truc absolument incroyable.
Voilà.
Un exemple un peu d'actualité, puisqu'on l'a vu récemment dans une émission, en juillet 2022, le rappeur Booba s'est servi de Papers pour lancer sa croisade contre les pratiques commerciales de la papesse des influenceurs, Magali Berda.
Ouais.
Et donc, il a trouvé malin, dit l'article, de poster sur son compte Twitter un lien vers la fiche Papers de Berda, permettant de trouver son vrai patronyme et l'adresse de domicile. Bon, évidemment, il s'est trouvé mis en examen pour harcèlement moral aggravé. Et Papers, lui, s'est pas offusqué. Il a dit, aujourd'hui, c'est une consécration pour Papers, mieux qu'une levée de fonds ou qu'une nouvelle fonctionnalité. Merci Booba et vive l'open data. Alors,
c'est à double tranchant, quoi. Transparence,
on ne soupçonnait pas le moindre harcèlement. Jure aujourd'hui Pierre Fruchard au Canard. Nous sommes rediffuseurs de données légales, accessibles ailleurs, se défend le dirigeant. En 2021, alerté par un chef d'entreprise épouvanté de découvrir sur la toile son adresse et des détails sur sa famille, Bertrand Sort, député macroniste de la Manche, pose à l'Assemblée la question du secret de la vie privée. Réponse en substance du gouvernement, tout est légal et ceux qu'ils souhaitent peuvent demander le retrait de leurs données. Encore faut-il qu'ils soient au courant de leur mise en ligne. Mmh. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, elle, brandit l'article 14 du Règlement général de la protection des données, le RGPD, régissant l'usage des données personnelles et portant sur l'obligation d'information des personnes. Riche idée, sauf que lorsqu'une information individuelle exigerait des efforts disproportionnés, une information générale pourra s'avérer suffisante. Quelques lignes réglementaires sur le site permettent donc à Papers de tout publier sans prévenir quiconque, ni vérifier le pédigré des utilisateurs. Et si la firme supprimait les données personnelles sur demande, comme le veut la loi, Fruchard assume une approche militante de la transparence et il dit « c'est au législateur d'anonymiser les données qui doivent l'être ». Ce qui est un peu léger, je trouve, d'ailleurs. Mais ça m'amuse parce qu'en fait, le ministre a une loi comme ça qui sort... il a une idée, il a beaucoup d'idées. Et donc, il sort sa loi et le Parlement, chambre d'enregistrement actuelle, ils pondent quelques amendements souvent retoqués parce qu'ils ne sont pas exactement dans la ligne. Il n'y a plus vraiment de débat. Et donc, on se retrouve avec ce genre d'incongruité. Rendons au Parlement son rôle et peut-être ça évitera ce genre de problème. Mais là, c'est quand même grave. Moi, je trouve ça extrêmement grave. C'est un truc... Et par ailleurs, puisque j'ai parlé de la loi informatique et liberté, là, il m'est venu une autre idée, d'ailleurs, que j'ai prise dans un bouquin. mais que je peux soumettre. Il faut que je retrouve ce que j'ai écrit. Deux minutes, voilà. Voilà. La loi informatique et liberté, 6 janvier 78, elle dit « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartement syndical des personnes qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. » Alors, qu'en est-il de l'intelligence artificielle ? Un algorithme de recommandation qui aurait accès à la photographie du visage d'un utilisateur pourrait très bien finir par apprendre seul à en reconnaître l'origine ethnique. Il pourrait alors décider, toujours en suivant les consignes très générales d'optimisation, d'exploiter cette information dans ses recommandations si par exemple il s'avère qu'on interagit plus volontiers avec des inconnus de la même origine ethnique que nous. Donc si les images de profil sont intégrées en entrée dans l'algorithme de reconnaissance sociale, auto-apprenant, rien ne garantit que cet algorithme ne vienne pas violer la loi informatique et liberté. Et donc en toute logique, il faudrait soit que la puissance publique soit autorisée à l'éditer, soit qu'elle puisse interdire l'examen d'images de profil par des algorithmes de recommandation depuis que les machines sont capables d'apprendre toutes seules et qu'on ne peut pas déterminer à l'avance la manière dont elles vont combiner les données qu'on leur donne la loi actuelle sur la protection de la vie privée. Qu'est-ce que je raconte là ? On ne peut pas déterminer à l'avance la façon dont elles vont combiner les données qu'on leur donne, virgule. La loi actuelle sur la protection de la vie privée fournit en somme un cadre juridique qui permet de contrôler le titre d'information pris en entrée des algorithmes, ce qu'on n'arrive pas à avoir. On ne sait pas quels sont les critères qui font que les algorithmes sélectionnent plus ou moins tel et tel truc.
Oui.
Donc ça, c'est une remarque que j'ai tirée du bouquin qui s'appelle Toxic Data et dont l'auteur est Monsieur Chavalarias.
C'est ça.
Je ne vais pas parler d'autre.
Chavalarias, oui, oui.
Donc, chercheur au CNRS. Oui, CNRS, d'ailleurs, j'ai appris une grande nouvelle, c'est que notre leader génial a une nouvelle idée. Et cette fois, il s'agit du CNRS. Donc ça fait peur, vu les idées précédentes. Mais bon. Pas encore regardé, donc je ne vais pas en parler plus. Mais je commence à avoir un avis assez défavorable. Vu que le CNRS, les gens du CNRS sont réputés, et il y a eu un audit extérieur très récemment, parce qu'il a fallu cet audit extérieur pour qu'on confirme le fait que les chercheurs passent plus de temps à essayer d'avoir des crédits pour monter leurs expériences ou monter ce qu'ils veulent faire que à faire de la recherche qui commence par devenir très très handicapant pour eux et qui commence à les énerver beaucoup. Et donc apparemment notre génial chef d'État a une solution de son chapeau sorti.
Ah bon ? Ah oui, d'accord.
Oh, notre leader Maximo.
Oui.
30 idées à la seconde.
Enfin, espérons que ça sera... Puisqu'il a mis en place un comité scientifique, espérons que ce comité scientifique lui indiquera une voie intéressante.
Une voie raisonnable.
Mmh. Oui.
Raisonnable.
Je...
Renifle ma culotte.
Oh là 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 là.
男らしくて光るぜカウボーイ色物理かけないいかしたかまい馬はいないけどきっと似合うだろう両手にビス取る構えて笑う2ヒルでクールだ大事なカウボーイなんか歌びを得て誇りが積もる傷だらけだけど立派なカウボーイ親に捨てられて夜露で濡れる夜が明ければ旅立つカウボーイ月に照らされて何かを思ういつものところが寂しげカウボーイそれでも明日の日はまた登る
We'll be right back.
à Radio Libertaire. Radio Libertaire de Post and Radio Show. Alors, je voudrais être sérieux deux minutes là. Et si je suis aussi véhément concernant cette personne dont je parle depuis tout à l'heure, avec le fait qu'elle ferait mieux de fermer sa bouche parce que on voit le fond de sa culotte qui ne doit pas être très propre, c'est que cette personne était également une animatrice sur Radio Libertaire et qu'elle est homophobe et qu'elle cautionne un autre animateur de Radio Libertaire qui est en privé profondément homophobe. Je n'en dirai pas plus, mais il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise, puisque cet animateur, je ne lui parle plus déjà depuis très longtemps, et cette animatrice qui jouait un double jeu finalement, je ne lui parle plus non plus, puisque à force d'écarter ce que vous voudrez, sa conscience, sa cohérence ou je ne sais trop quoi, voilà quoi. Donc, ce sont des homophobes. Il y a des homophobes sur Radio Libertaire. Et moi, je suis homosexuel, je suis gay. Et donc ça, je ne peux pas le tolérer.
Moi aussi.
Et donc, cette personne qui s'affiche gorge déployée sur certains réseaux, donc ferait mieux de moins s'afficher et d'être un peu plus clair sur ce qu'elle véhicule et tous ses mensonges, puisque cette personne est une menteuse, une manipulatrice, une affabulatrice. Je ne l'ai pas nommé, c'est pas la peine de me dire de fermer ma gueule. Yves, je ne l'ai pas nommé, je ne la nomme pas, et personne ne pourra la reconnaître. Mais ça, il fallait que je le dise.
Bon.
Voilà. Quoi bon?
J'ai un article sur le sucre.
Bah vas-y.
Ah. C'est quoi? C'est un petit
quoi
article.
Il y a un problème. Il y a un problème sur ce que... Attends. Il y a un problème sur ce que je dis. Comment ça, il y a un problème?
Qu'est-ce qu'il y a là?
Il n'y a pas de problème sur ce que je dis.
Bon, je peux commencer mon article hein?
Si j'ai envie de dire ce que je dis, je le dis. Et si j'ai envie de dire qu'il y a des homophobes bien cachés sur Libertaire, je le dis.
Bah, il faut le dire, effectivement.
Voilà, et moi je sais. Moi je sais de qui je parle. Après, voilà. Il n'y a pas de chasse aux sorcières ou aux homophobes, c'est pas les sorcières. Aux homophobes. Donc voilà. Donc quand on passe son temps à pipoter, mentir sur un tas de choses, on la ramène pas quoi. C'est tout. Et je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi je pourrais. Mais non, là ça va, ça suffit, ça me gonfle. Donc là, et puis peut-être qu'une prochaine fois ça sera le outing. Je dirai les noms en direct, l'émission, etc. Je m'en tiens là. Donc, ton article sur le sucre, allez, vas-y, sucre-nous, ça va nous apaiser.
Alors, il s'agit de notre première ministre, Elisabeth Borne, qui n'arrête pas de dégainer le 49.3. Et donc, le 25 octobre, elle a utilisé ça pour le projet de budget de la Sécu pour 2024. Alors, juste avant, la première ministre avait discrètement sucré du texte deux amendements fâcheux déposés par le MoDem, Cyril Isaac Sibyl. Le premier proposait de durcir la taxe soda et le second de l'élargir à tous les produits alimentaires transformés contenant trop de sucre, trop de saccharose. Donc carton plein pour l'industrie du sucre avec deux victimes, la santé publique et les caisses de la Sécu. Petit rappel des ravages du sucre. En plus de favoriser l'obésité et les maladies qui vont avec, telles le diabète type 2, l'excès de sucre peut vous refiler une cirrhose sans que vous ayez bu une seule goutte d'alcool de votre vie. Le syndrome du foie gras non alcoolique, comme on l'appelle, est en passe de devenir en France la deuxième cause de greffe de foie derrière l'alcool. avec un effet démultiplié lorsque le sucre est siroté. Une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sur 100 000 Français a montré que boire chaque jour le tiers d'une cadette de soda augmentait de 18% le risque de cancer, notamment du sein. Ça vient du British Medical Journal du 11/7/2019. Une cata, vu que chaque Français consomme en moyenne 50,9 litres de soda par an. Une quantité d'ailleurs qui ne cesse de grimper. Et face à cette bérésina sanitaire à venir, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes, a proposé cet été, en prenant exemple sur le Royaume-Uni, d'augmenter dardard la taxation des boissons sucrées. Trop riquiqui, cette taxe qui existe depuis 5 ans n'a quasiment eu aucun effet sur le taux de sucre des boissons et les magistrats recommandent en prime d'étendre cette taxe à tous les aliments trop sucrés, notamment les céréales pour le petit déjeuner, les confiseries. Une idée reprise au bon donc par le député Isaac Sibyl et qui avait été adoptée en commission des affaires sociales avant d'être flinguée par le 49.3. Bon, ceci dit, c'est une bonne nouvelle pour le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, Nestlé, dont le responsable du lobbying auprès des députés et sénateurs français officie aujourd'hui au cabinet d'Elisabeth Borne comme conseiller parlementaire.
Comme par hasard.
Ben voilà, c'est tristounet, je trouve. Voilà.
C'est tout.
Oui, oui, c'était un petit article.
Un article.
C'était un tout petit article.
Sinon, j'ai un truc sur le sel, mais c'est moins...
Ah bah après le sucre, le sel.
Voilà, il y a un truc sur le glyphosate. Tu vois, il y a 40 mesures. Enfin bon, bref, ça n'arrête pas, quoi.
Donc, un truc...
Je vais m'arrêter de façon à éviter de sombrer dans une déprime. Il faut que je rentre chez moi tranquille, quand même.
mais non.
Sinon, j'avais... Par exemple, 3 articles que j'ai repérés dans des mondes successifs. Il y en avait un du... Le premier, c'était le 22 et 23 10. Le second, c'était le 24 11, puis le 26 27 11. De quoi il s'agit? Le premier titre, c'est...
Voilà.
Les déchets d'emballage battent des records en Europe. Alors, en plus, nous, on bat des records par rapport aux Européens.
On bat des records surtout, en fait, je crois.
Ensuite... La France, mauvais élève du recyclage du plastique et de la consigne du verre. Mmh. Je voulais juste le titre. Et ensuite, la réduction des emballages approuvée malgré un lobbying intense.
Oui.
Bon, j'ai pas envie de lire les articles.
Moi, j'ai un article de 2 pages.
Oh, très bien.
Ah ben, 2 pages, j'ai fait.
Waouh! Et c'est quoi?
Non, ça fait 1,5 pages au global.
Non, mais c'est bon. Quoi?
C'est surtout des chiffres.
Ah.
Ça m'intéresse énormément. Bah, c'est le bassin de la Loire. Impact du nucléaire sur l'eau.
Ah oui.
C'est la suite de l'autre article, en fait. Enfin, c'est pas marqué, mais...
Sur le réchauffement de l'eau, donc?
Bah, surtout. Sur tout ce qu'il y a dans l'eau. Alors, quelqu'un qui le connaît... Vous connaissez bien le bassin de la Loire, non?
Non, pas du tout.
C'est le grand exemple. Le collectif Loire-Vienne, voilà... qui intervient là pour défendre tout ça et qui s'appelle Zéro Nucléaire. Et donc, il montre un petit peu, ça va de Laval, Le Mans, voilà, c'est la zone tout en haut de la carte, hein, Saint-Laurent-des-Eaux, etc. Voilà, on est au niveau du Mans, voilà, de Sablé-sur-Sarthe, vous voyez, Orléans, voilà, c'est en haut. Et puis, le bas de la carte, c'est Niort. Niort, Guéret, ça vous parle? Moulins?
Oui.
Moulins, hein, donc oui, jusque, oui. On va dire, Vichy, quoi, hein, voilà.
Oui.
Voilà. Donc c'est dans cette largeur-là, vous le voyez, parce que voilà, vous n'êtes pas auditeur, vous avez cette chance, vous pouvez voir la carte.
Oui. Ouais.
Alors, début 2022, Macron hein, annonce sa volonté de relance du nucléaire, d'accord, au moins 6 EPR 2, il les appelle 2 hein, maintenant, évidemment. Alors, débuté en 2028 pour fonctionner en 2035, puis 8 EPR 2 toujours additionnels. Voilà, alors donc en tout, ça fera 14, hein.
Oui.
14, attention, hein, oui. Alors, débuté en 2028, bon. Alors, cette décision ne fait suite à aucun bilan complet après plus de 50 ans de nucléaire civil. Bilan qui aurait dû être industriel, économique, social, sanitaire, environnemental, etc. Alors, écartant toute donnée à charge, l'État nie par ailleurs la réalité du danger nucléaire, préférant miser sur la gestion post-accidentelle et l'espoir que la science viendra sauver l'ensemble.
L'argument massif justifiant ce choix étant que les communicants d'EDF la scène sans relâche. Le nucléaire est bon pour le climat. Ça, c'est sans arrêt dit. Oui. Alors, le nucléaire, sauveur du climat, vraiment. Alors, or, si le nucléaire est peu émetteur de CO2 dans sa phase de production électrique, en fonctionnement, hein, attention, dans sa phase de production, sa relance ne sauvera probablement pas le climat. Oui, parce qu'il faut les construire quand même. C'est ça qui coûte très très cher aussi. Alors, ce 6 novembre, eh bien, 8 associations ont fermé le ministère de la Transition écologique. Occasion pour elles de réclamer une réelle transition énergétique sans gaspiller d'argent dans des technologies trop lentes et onéreuses comme la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Or, non seulement le nouveau nucléaire arrivera trop tard pour infléchir la courbe du réchauffement, mais il aggravera l'une de ses conséquences, c'est-à-dire l'atteinte à la ressource en eau. Alors, le nucléaire et son impact sur la ressource en eau. Alors, Global France a évalué la consommation d'eau de l'ensemble de la filière française. Le réseau Sortir du nucléaire a également lancé une campagne sur les divers impacts de l'industrie nucléaire en France sur l'eau. Nous allons ici rendre compte d'actions plus localisées sur le même sujet. À l'échelle du bassin versant de la Loire, le collectif Loire-Vienne Zéro Nucléaire agit pour la défense de l'eau. Notre collectif fort de 13 groupes, plutôt riverains, d'installations nucléaires, s'est auto-organisé en 2016. Ça fait 7 ans, hein. Alors, l'échelle du bassin versant s'est imposée comme une forme de regroupement pertinent pour relier nos actions, notamment pour mettre en évidence le cumul des nuisances au fil de l'eau. Ah, vous allez être ébahis parce que vous allez voir, les chiffres sont assez quand même impressionnants. Alors, un bassin versant, c'est quoi déjà? Ils veulent nous indiquer sur quoi ils ont fait les études. Une unité géographique de collecte des eaux de surface. Sur celui de la Loire et de tous ses affluents, 5 centrales nucléaires sont implantées. 4 en bord de Loire, c'est Belleville-sur-Loire. Oui, on la voit. Dampierre en Burly, on voit loin aussi. Saint-Laurent-les-Eaux, c'est pareil. Ça, c'est imposant quand même. Et puis Chinon, la centrale de Civaux étant, elle, au bord de la Vienne. Alors, ce sont donc 5 centrales, soit 14 réacteurs. Oui, parce qu'une centrale, c'est un lieu, simplement. Hein. Il y a 14 réacteurs, c'est ça qui est important, en activité au total. Et 5 à l'arrêt, non démantelés, qui s'alimentent ou qui rejettent dans le même bassin. Le nucléaire pollue nos eaux en permanence. Alors, des radionucléides dans la Loire et la Vienne. En 2016, nous sommes passés de la dénonciation de la pollution accidentelle, pollution plutonium, notamment, dans la Loire, lors de la fusion partielle des cœurs nucléaires à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux en 69 et en 1980. Voilà, il y a déjà eu deux alertes énormes, hein, et de pollution, hein, du coup. Alors... Alors tout ça donc par rapport à la pollution légale. Hein. Alors en effet, les centrales sont autorisées à déroger des fluents radioactifs dans l'air et dans l'eau, surtout de tritium, cet hydrogène radioactif qui peut intégrer la chaîne alimentaire directe. Hein. Nous avons donc constitué en 2018 un réseau de préleveurs citoyens formé par le laboratoire indépendant de l'ACRO, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Des prélèvements en eau, en amont et en aval des centrales. C'est du travail, ça, hein, surtout au niveau bénévole. De l'eau potable et des végétations aquatiques et des sédiments sont régulièrement réalisés depuis. L'ACRO y recherche du tritium dans l'eau, d'autres nucléides, césium, cobalt, dans des échantillons solides. Les résultats sont publiés sur son site. Nous prélevons à l'aveugle, EDF refusant de communiquer les dates de ces rejets. Mais ce travail a par exemple permis de lancer l'alerte sur une concentration de tritium hors norme dans la Loire à Saumur en 2019. Les effets mutagènes et cancérigènes du tritium sur l'ensemble du vivant ne sont ni suffisamment étudiés ni suffisamment dénoncés. Pourtant, le tritium est présent jusque dans les sédiments de l'estuaire, tout de même à plus de 150 km de la dernière centrale. 150 km plus loin. Hein. En 2019, nous avons visibilisé, à partir des rapports annuels d'EDF, le cumul des rejets radioactifs des 5 centrales. Des pollutions chimiques sont passées sous silence. Ces rapports EDF nous ont également permis de calculer qu'au total, près de 6000 tonnes de substances chimiques autorisées ont été rejetées dans la Loire et la Vienne en 2020. Alors dedans, ce sont des sulfates, ils ont trouvé des sulfates, de l'acide borique, de l'ammonium, des nitrates, des nitrites, des phosphates, des chlorures, des métaux lourds, des détergents, etc. Depuis des décennies, combien de milliers de tonnes ont-ils été déversées dans le fleuve ? Pour quel impact sanitaire et environnementaux cumulé au fil de l'eau et des ans ? Silence. Le détail des pollutions chimiques et radioactives peut être retrouvé sur le site de l'un des groupes du collectif. Tout ça, c'est visible, hein, c'est lisible. Alors, le nucléaire pompe et évapore nos eaux. Les sécheresses s'intensifient. Nous nous sommes intéressés aux quantités d'eau que les sites prélèvent pour l'indispensable refroidissement des réacteurs. En 2021, les cinq centrales ont pompé près de 700 millions de mètres cubes d'eau dans le bassin de la Loire, dont environ 500 millions ont été rejetés dans les cours d'eau. Pas dans leur état initial, mais plus chaud et régulièrement chargé en substances polluantes. Mmh. Sur ces 700 millions de mètres cubes, presque 200 millions ont été évaporés. Cette eau vaporisée équivaut à la consommation annuelle en eau potable de plus de 3 millions de personnes, soit plus que l'ensemble des habitants de la région Centre-Val-de-Loire. Étant donné la perspective de réduction des déchets des fleuves et rivières dans les décennies à venir, faudra-t-il choisir, boire ou continuer d'électrifier tous nos usages ? Alors, le nucléaire réchauffe nos eaux, les centrales réchauffent directement l'environnement. Elles y rejettent deux fois plus de calories qu'elles n'en produisent sous forme d'électricité. L'échauffement dû au rejet dans les cours d'eau est, lui, légalement limité à 1 degré entre amont et aval de chaque centrale. Mais EDF ne publie qu'une moyenne mensuelle de température pour chacune d'elles, masquant ainsi les écarts les plus importants. Et rien n'est dit sur l'échauffement global du fleuve après rejet thermique des 14 réacteurs. Enfin, contrairement à la Garonne ou au Rhône, entre parenthèses 28 degrés, les autorités n'ont pas fixé de température limite à ne pas dépasser pour l'eau de la Loire. Ces cinq centrales n'ont même pas besoin de demander de dérogation en cas de canicule pour continuer à rejeter leurs eaux chaudes dans un fleuve qui serait déjà trop chaud. Tant pis pour la flore et la faune. Les barrages indispensables aux centrales affectent le vivant. Pour continuer à fonctionner l'été, les centrales ont besoin d'un débit suffisant des cours d'eau pendant leur plus bas niveau. Pour le garantir, deux barrages ont été construits en même temps que les centrales ligériennes, c'est-à-dire Villerest sur la Loire, Nossac sur l'Allier, et puis sur la Vienne, celui de Vassivière, qui a été rehaussé. Le lac de Vassivière, oui. Alors, ces barrages ne sont pas à l'abri d'un risque de rupture et de catastrophe. Par ailleurs, ils empêchent le cycle de la faune alluviale, notamment migratrices, saumons, alose, moules, etc., et l'écoulement des sédiments essentiels à la vie. Enfin, tels d'immenses bassines, ils augmentent l'évaporation et le réchauffement des eaux. Eau polluée, pompée, évaporée, réchauffée, entravée, les réacteurs nucléaires mettent à mal nos eaux. Pour préserver la vie, ne relançons surtout pas le nucléaire. Au contraire, arrêtons-le. Voilà, alors on peut retrouver toutes ces données sur un dépliant qui a été réalisé en 2023, qui est diffusé dans toutes les occasions, par exemple au Larzac, lors du convoi de l'eau, etc. Voilà,
Je peux vous poser une question ?
Ouais.
C'est quoi ce qui est dit sur le lac de Vassivière ? Je n'ai pas compris.
Alors, ils ont rehaussé, je pense.
Le niveau de température
pour garantir le niveau de température, deux barrages ont été construits en même temps que les centrales ligériennes, ils les appellent, c'est-à-dire Villerest sur la Loire, Nossac et l'Allier. Sur la Vienne, celui de Vassivière a été rehaussé. Alors, ces barrages ne sont pas à l'abri d'un risque de rupture et de catastrophe. Mmh. Voilà, pour continuer à fonctionner, pour continuer à fonctionner, l'été, les centrales ont besoin d'un débit suffisant des cours d'eau pendant leur plus bas niveau.
Oui, c'est bien le problème.
Donc il faut, faut trouver des réservoirs, quoi, ouais. Bon, non, c'est colossal, hein, c'est. Colossal, en deux mots.
Je pouvais pas imaginer qu'il y ait 200 millions qui s'évaporent.
Oui, c'est impressionnant.
Oui, oui.
Impressionnant, surtout
sur les 700 millions.
Pour,
oui.
Surtout pour.
C'est des mètres cubes ?
Oui, parce qu'elles sont très chaudes, hein, je pense. Mm. Ils ne mettent pas à quelle température ça sort. Oui, des mètres cubes, hein, c'est des mètres cubes.
Ah ben ça sort sous forme de.
De vapeur.
De vapeur,
de vapeur déjà.
Pour faire tourner les turbines.
Ah oui.
Je pensais qu'ils récupéraient la vapeur ensuite sous forme de l'eau.
Oui, c'est renvoyé dans le fleuve. Dans les fleuves, oui. Mm.
Oui.
いでチェキ払いボスには前借りファンク代ドイツシカゴ経由モダンのエリート酒場五六現場からリポート何気理論その他もろもろ使いややこしくするアーバン文法むき出しの言葉空気を震わす思わず膝が笑うほど強力とてつもなく煙めのジャムはタンクに満タンワンツーワンツー耳をつんざく言葉キューキューと書くブランニューファンク注入未だ未知数デフな連中もかばく心中ワンツーワンツー耳をつんざく言葉キューキューと書くブランニューファンク注入未だ未知数デフな連中もかばく心中チェゲナッチョ若年層青年層おっと興味すらないそうそっと覚悟で俺も乗せろ再び登場アニダビッチョスモーキンファンクは多重構造リザーブタンクで一周旅行オーラスタンクでトップショーアニズタンクそつなく旅行ハーコーコーコーマニアックサイコさえも脱毛の頻度と消費量理想暴落ダジャレキュートごとび下げ配送アーバン文法フレッシュ強行作に歴史わらの代わりに音が MIC 手軽なボケで息をディギディギ煙吐き吐きハットチキチキ吐き捨てる言葉に空気も歪みよし足切りなし16拍子常時に合わせにアリインチャージ初回割引キスマイ言葉尻新鮮なフローは学生遺伝の地にお化け KDNA 元前と有望な長男坊自他とも認める MC 坊ことわざ熟語次々熱想なけりゃ作るの変革活用生まれるフローニュース速報都内某所からドロップする文法急降下なだれ式バレダジャレの救世主降らす雨あられ否定断定下げて未来系意味とあやりゃ面街のラインページ下げパン上げチンやけに自慢げ押せ押せムードの中引きのげあぜん学前伏線の差し加減だけにやってねえぜ運命めくだんねえしょうもねえからひねり出せファンキーフレッシュくだんねえしょうもねえからひねり出せファンキーフレッシュくだんねえしょうもねえからひねり出せファンキーフレッシュくだんねえしょうもねえからひねり出せファンキーフレッシュ
Merde, il y a un blanc à l'antenne, est-ce possible? Enfin, un silence. J'étais en train de faire pipi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc.
Oui, mais c'était la fin du disque, effectivement.
Et nous, on est bleus, hein, quand même.
T'as été un peu surpris par la fin du disque.
C'est la fin de cette émission.
Il y a une bête chaud, je sais pas comment, on n'est plus des bleus, merde. Des bleus avec un blanc à l'antenne, ça la fout mal.
Un silence. C'est la fin de cette émission, mais elle n'est pas encore complètement finie, puisque vont suivre deux versions différentes de Porno 3003, un titre de Pizzicato 5, la version de l'album de 97, et puis ensuite un remix de 1998, et puis ensuite 35 minutes de Sponge Cake Man Aka Keisube Matsuda, et puis ensuite les programmes normaux, enfin le multivers sonore de cette émission avec tous les montages des émissions précédentes, etc., etc., etc. Serge, Guy, Yves, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Une dédicace à Noura qui nous écoute depuis 21h30, 22h.
Ah, super.
Et à qui je souhaite une bonne nuit. Voilà.
Bonne nuit.
Oui, oui, voilà.
Et puis, si cette émission a été un peu. N'en déplaise à certains, c'est comme ça. Et c'est tout. Voilà. C'est comme ça et c'est tout.
Bonne soirée.
Yves, Serge et Guy, bonne soirée à tous. Bonne semaine à tous et bye et puis bonne nuit en tout cas.
Au revoir.
Oui. Normalement.
On finit avec quoi comme morceau comme,
alors,
superbe.
Porno 2003.
D'accord.
Deux versions différentes de Pizzicato 5.
Ouais.
La version initiale, puis le remix électro, et ensuite 35 minutes de montage radio de Sponge Cake Man aka Kesube Matsuda, qui date de 2021. Pour, paru chez Lost Frog Productions. Les grenouilles perdues, tu m'en diras tant.
Oh, dis donc.
Allez.
C'était la spéciale Japon, Tetsuo Kogawa, Radio Arc et la programmation musicale japonaise.
Une émission bien culottée.
Yves, c'est drôle. Non, Yves n'a pas envie de rire.
Non.
Yves n'a plus du tout envie de rire.
J'ai envie de prendre le métro pour rentrer parce que je suis pressé.
Ah, ok, voilà. Bye, oui, salut, au revoir.
Salut.
Au revoir.
Au revoir à tous.